Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode d'Au Café Avec. Cette fois, direction Ried et le centre d'entraînement du FC Sion pour une rencontre avec Reto Ziegler, l'ancien international défenseur central au FC Sion. On va parler de sa carrière, de sa très longue carrière, de son attachement à l'équipe de Suisse et aussi de ses expériences à travers le monde en ballon. Bonne écoute d'Au Café Avec. Salut Reto, merci de nous recevoir dans ce beau village de Ried, bien humide. Première question bête, mais qu'est-ce qui te fait encore courir comme ça à 37 ans, bientôt 38 ? On sent que le football, c'est vraiment une énorme partie de ta vie.
C'est juste, bonjour à tout le monde déjà. Ouais, le foot, c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai beaucoup de plaisir à jouer au foot. Même à bientôt 38 ans, comme tu l'as dit, je pense que je peux encore m'améliorer dans certains aspects de mon jeu. Donc, je sais que j'ai encore quelques années à jouer et je profite à fond. Chaque entraînement pour moi, c'est un challenge. J'ai envie d'être bon. C'est clair que je suis aussi le capitaine de cette équipe, donc il faut être au niveau de l'attitude, mais aussi au niveau des performances. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir, en tout cas, de me lever le matin pour aller jouer au foot. Tant que j'ai cette passion-là et ce feu, j'aimerais jouer encore quelques années.
Tu vis encore vraiment quelques années à la Maldini, ça te fait pas peur, 40 ans, à la Dante, à la Hilton?
Non, mon objectif, c'est de finir ma carrière en été 2025. Okay. C'est de ramener le FC Sion en Super League, si possible, aller le plus loin possible en coupe, ça c'est mon objectif. Et avec mes performances, mériter encore un contrat en Super League de l'FC Sion et d'arrêter l'été 2025. Ça, c'est mon objectif. Et après, faire une transition toujours dans le monde du foot. Là, je vais commencer gentiment mes diplômes d'entraîneur. C'est quelque chose qui me passionne. Mais pour l'instant, je me concentre à fond sur le jeu en tant que joueur de foot. Mais je sais que la fin arrive bientôt. Et c'est pour ça que je me répète, je profite chaque moment.
Mais là, t'arrives en Challenge League, joueur du mois au mois d'août, t'as déjà mis 6 buts, t'es encore largement bien au niveau. Donc, c'est quoi? C'est que tu es vraiment... on voit, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé très tôt en première division à 17-18 ans. Maintenant, en dessus de 30 ans, à la Rooney par exemple, c'est dur. Mais toi, tu dures vraiment. C'est dû à quoi, à ton avis? C'est génétique? C'est ton boulot? C'est peut-être ta position en ayant reculé sur le terrain?
Sûrement aussi ma position. Et ça, je peux remercier le coach Didier Tolo. C'est lui qui m'a transformé en tant que défenseur central en 2015. Donc, c'est clair qu'il m'a prolongé la carrière. Ça, c'est un point important. Et puis, le deuxième point le plus important, c'est l'hygiène de vie. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent depuis tout jeune, mais il faut le mettre en pratique. Et je pense que pour ça, je dois être un exemple. Sincèrement, je fais attention à mon corps, tout simplement. J'essaie de dormir le plus possible. Maintenant, je suis aussi papa, j'ai deux petites filles, donc c'est pas toujours simple. Mais je pense que le repos est très important. Et puis l'hygiène de vie, dans ça, c'est les soins, c'est le massage, c'est la nourriture. Et j'ai la chance aussi d'avoir une femme qui est une ex-sportive, qui comprend justement mon métier. Et elle me soutient à fond, donc c'est ça les secrets. Après, il faut avoir de la chance de part de grosses blessures. Et ça, je touche du bois, j'ai jamais eu vraiment de grosses blessures que des petits pépins. Donc ça aussi, ça joue pour beaucoup.
Ça fait quoi, quasiment 20 ans que t'es pro? Est-ce que t'as vu la différence, tu dis nutrition, travail, régénération ce que tu fais aujourd'hui après un match, t'aurais pas pu l'imaginer à 18 ans?
Non, c'est clair qu'à 18 ans, en tant que célibataire, tu vas plus tard au lit, tu vas plus au restaurant, tu vas peut-être boire un verre avec les coéquipiers, mais ça fait aussi partie d'un apprentissage en tant qu'homme et en tant que joueur de foot. Je l'ai fait. Maintenant, c'est clair qu'avec l'âge, il faut faire attention à son corps. Je dis pas que je vais plus boire des verres, mais c'est plus calculé, donc faut vraiment faire attention à ça. Et puis je pense que j'aurai assez le temps après la carrière pour profiter de que ça soit justement de faire la fête entre guillemets, ou de faire des sports dangereux comme le ski par exemple. J'ai plus jamais fait de ski depuis que j'ai 12 ans, donc je me réjouis aussi de profiter pour ces choses là mais non, il faut être très exigeant avec soi-même Et après, c'est pas de la chance, quoi. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Donc moi, je suis content d'être encore en forme à cet âge-là.
Tu dis que tu te vois bien continuer comme coach, mais bah, qu'est-ce que tu as pris des nombreux coachs que tu as croisés? Est-ce qu'il y en a, bah, tu t'imagines plus être un entraîneur de ce style que d'autres? Et puis, est-ce que maintenant, déjà, sur le terrain, tu n'es pas déjà une sorte d'entraîneur adjoint défenseur central?
C'est vrai que bon, grâce aussi à ma position sur le terrain, je vois bien le jeu. Après, je suis un joueur qui parle beaucoup, donc c'est vrai que de toute façon, j'essaie d'aider mes coéquipiers aussi avec la voix. Donc oui, c'est vrai, c'est presque comme un coach, mais bon, c'est pas mon boulot. On a un coach qui le fait très bien ici au F-Session, mais non, c'est quelque chose qui me passionne. Après, la tactique, c'est une partie du métier de coach. Moi, ce qui me plaît plus que la tactique, c'est vraiment la technique. Comme moi, j'ai pu apprendre en tant que jeune à Grasshopper avec des entraîneurs hollandais qui sont venus de l'Ajax. On a fait beaucoup de techniques et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille avec les plus jeunes. C'est la technique, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qu'on peut pas rattraper avec l'âge. Donc si depuis tout petit faire la technique, et je pense que là je peux vraiment aider les jeunes avec mon expérience, avec la technique, et être spécifique sur certaines positions. Et ça, j'ai joué pas mal de positions dans ma carrière, donc je pense que je peux être bon en contrant et peut-être trouver la bonne position au bon joueur. Ça, j'ai l'œil du foot, on va dire, pour ça.
T'as un ou deux entraîneurs qui t'ont marqué particulièrement, à part les Néerlandais de Yeatsé
Bon, un qui vient à l'esprit, c'est Luigi Del Neri à la Sampdoria. C'était un coach. Je pense qu'il coach plus. En tout cas, c'était un coach qui était très old school à l'italienne. Il jouait 4-4-2 et il changeait jamais de formation. Mais du coup, j'ai vraiment appris à défendre, on va dire, avoir ce plaisir de défendre, ce que j'avais pas en arrivant en Italie. Je suis passé par la première et l'Angleterre où vraiment ce qui compte là-bas, c'est l'intensité, la vitesse de jeu et on va dire vraiment la joie avec le ballon. Mais la tactique, c'est pas la, en tout cas, c'était pas à l'époque la chose principale. Tandis qu'en Italie, c'est vraiment la chose qui se démarque, c'est être bon tactiquement. Et j'ai énormément appris avec Luigi Del Neri en tant que latéral gauche. C'est aussi cet entraîneur qui m'a pris après à la Juventus. Et c'est vraiment avec lui que je suis devenu, on va dire, un joueur établi. Je pense que jusqu'à là, j'étais toujours un bon joueur, un talent, on va dire. Mais après les années avec Del Neri, j'ai pu me confirmer en tant que latéral gauche de haut niveau. Et grâce à ça, après, j'ai pu aller à mon premier mondial avec l'équipe suisse en 2010.
Par rapport à tes qualités, c'était vraiment le latéral gauche parce que bah, tu as fait tout le flanc gauche, maintenant central gauche. C'était vraiment ton poste, c'était le poste où à l'époque en équipe de Suisse il y avait le plus de concurrence presque parce qu'il y avait vraiment du haut niveau là.
Il y a toujours eu des bons latéraux gauches en Suisse. Après, c'est un autre entraîneur que je pense que vous connaissez, c'est Carlos Bernecker, qui était assistant justement de Marcel Koller en 2003-2004, ma première saison pro à Grasshopper, qui m'a pris à part et il m'a dit, écoute, en tant que latéral gauche, je pense que c'est là où tu peux faire la plus grande carrière, c'est là où il y a le moins de joueurs, on va dire, de qualité en Europe. Et c'est aussi grâce un peu à lui aussi que j'ai fait ce pas-là, parce que j'étais ailier, j'étais numéro 8. J'ai jamais vraiment pensé à jouer latéral gauche. C'est lui qui m'a vu performer sur cette position. Donc, à partir de là, j'ai commencé ma carrière pro en tant que latéral gauche. Ouais.
T'as 35 sélections, t'as joué dans 7 pays, 2 Coupes du Monde. Quand tu commences, bah, Servette, la côte, est-ce que c'est un objectif ou toi vraiment gamin, tu dis ah, je vais être foot pro, footballeur pro, ou est-ce que tu t'es auto-surpris quoi?
Bah, ça a toujours été mon objectif de devenir pro. J'ai eu la chance aussi d'avoir un exemple avec mon frère qui a été pro, qui a malheureusement eu une blessure à FC Zurich, mais qui m'a montré le chemin, qui m'a toujours soutenu. J'ai pu apprendre énormément par rapport à lui. Pas faire, on va dire, les mêmes choix que lui. Lui, à l'époque, il avait l'opportunité d'aller à Grasshopper, mais il a préféré aller en Allemagne, à Kaiserslautern. Et contre l'opportunité est arrivé sur la table pour moi d'aller à Grasshopper, c'est lui qui m'a dit il faut y aller. Et c'est vrai que c'était dur parce que j'avais 14 ans, je venais de finir ma huitième année à l'école, Mes parents sont suisses allemands, donc je comprenais, je parlais suisse allemand, mais le français reste ma langue maternelle. Donc de partir à 14 ans à Zurich, ça n'a pas été simple. J'ai vécu seul au début, après avec des coéquipiers. C'était un pas important, pas facile à faire, mais que je regrette pas, parce que j'avais vraiment cette volonté, cet objectif de devenir pro.
Et à cet âge-là, habiter seul en Suisse allemande, bon, heureusement tu parlais la langue, hein. Comment tu vis ça? Ça doit être un chamboulement. Et puis, par rapport aux jeunes de ton âge, c'est une vie complètement différente.
Ouais, c'est vrai, c'était pas simple, mais je dois aussi dire j'ai la chance d'avoir ma famille, mes parents qui m'ont donné cette possibilité-là de tout miser sur le foot. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance aussi dans ma carrière parce qu'au début, à 16 ans, je suis devenu champion d'Europe avec la Suisse, donc ça, c'était un énorme tremplin. Donc là aussi, je me suis dit, bah, je pense que ça, c'est en tout cas, c'est bien parti, quoi. Mais après le pas en première équipe, c'était encore quelque chose d'autre, c'était encore un autre pas assez difficile. Et honnêtement, comme pas mal de mes coéquipiers, j'aurais pu mal tourner, je dis pas mal tourner, mais on va dire, j'aurais pu être dévié de cet objectif de rester concentré sur le foot, parce qu'à 14, 15 ans, 16 ans, seul à Zurich, bah, c'est clair, il y a plein de choses qui peuvent t'éloigner du foot, mais moi, j'ai réussi à vraiment à rester concentré sur le foot. Même en habitant seul. Donc, ça, c'était, on va dire, une de mes forces mentales par rapport à d'autres qui avaient peut-être aussi les qualités footballistiques, mais peut-être mentalement étaient moins forts ou moins concentrés.
Pour tes parents, bah toi tu peux voir maintenant que tu es papa. T'imagines tes enfants s'attirer à 14-15 ans, les deux. Tu te rends compte du sacrifice qu'ont fait tes parents ça, à ce moment-là?
Ouais, le sacrifice, c'est énorme et je pense qu'ils avaient aussi confiance en moi. Et après, ils venaient souvent voir mes matchs, mais c'est vrai que durant la semaine, j'avais une liberté. Donc, on était encadré par le club, mais c'est vrai que voilà, il y a d'autres joueurs qui étaient moins concentrés. Et de tout ce groupe de jeunes, les deux qui ont réussi, c'est moi et Stéphane Lichtsteiner. On a habité ensemble, on a fait les deux le pas en première équipe, et lui, il a fait une carrière aussi extraordinaire. Donc, on est deux sur peut-être 20 joueurs qui ont réussi à faire une carrière.
Après, bah, t'enchaînes hein, en Angleterre. À 18 ans, tu pars.
À 18 ans, ouais.
Là aussi, gros chamboulement. Et puis, c'est vraiment une autre vie. Tu rentres dans l'ultra-professionnalisme, dans un championnat de fou furieux. Comment tu t'adaptes? Parce que ça se passe bien tout de suite là-bas.
Bon, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma mère de venir avec moi. Premièrement, parce que j'avais pas encore le permis de voiture. Donc,
Et tu voulais pas manger la nourriture anglaise, quoi.
exactement. Bon, c'est vrai que la nourriture anglaise, c'est pas la meilleure non plus. Donc, ça, c'était important. Donc, ma mère est venue avec moi, m'a soutenu. J'ai pu, une fois de plus, me concentrer à 100% sur le foot. Et c'est clair qu'au niveau du foot, c'était encore un autre monde. Donc, j'ai pas mis beaucoup de temps à m'adapter, si je suis honnête. J'ai eu la chance aussi d'avoir un directeur sportif à l'époque, Frank Arnesen, un Danois, qui donnait la chance aux jeunes, parce que c'était pas normal ou c'était assez nouveau à Tottenham, en tout cas, de donner
C'était
la.
qui? C'était Santini, l'entraîneur?
Oui, c'était Santini, ouais. Au début, c'était Jacques Santini. Donc, j'ai eu la chance, là, justement, d'un directeur sportif qui donnait la chance aux jeunes. C'est pas partout comme ça en première ligue et c'était en tout cas nouveau à l'époque pour Tottenham. Et j'ai saisi ma chance. Donc, j'ai signé en tant que latéral gauche. Mais les couloirs gauche, les offensifs étaient blessés. Donc, j'ai commencé en tant qu'ailier. Et derrière moi, il y avait un joueur que vous connaissez bien aussi en Suisse, c'est Timothée Atuba, qui était à Bâle. Donc, on faisait la paire et donc ça s'est super bien passé, ouais.
Est-ce que tu avais vu les guignols de l'info, la marionnette de Jacques
Ouais, je me
Santini
souviens vaguement, mais c'est vrai que je l'ai vu, ouais. C'est vrai. Ouais, il parlait, parce que, enfin, à part ses qualités d'entraîneur, c'est vrai, ce qui m'avait surpris, ce qui me faisait marrer un peu à l'époque, c'est qu'il parlait presque pas anglais. Et là, je me disais,
sa conférence de presse de présentation
ouais, c'était difficile pour lui. Et je pense que ça doit être aussi une raison, peut-être qu'il pas resté plus longtemps. C'était vraiment la barrière de langue était quand même assez choquante à l'époque, ouais.
À cette époque, bah, c'est quand même allé très vite pour toi, hein. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Parce que bah, moi, à 18 ans, j'étais au bal de campagne et puis j'arbitrais en deuxième ligue. Du coup, je pouvais dépenser au bal de campagne ce que j'arbitrais l'après-midi. Mais toi, t'es en première ligue, t'es à Tottenham, un grand club anglais. T'as le temps de te rendre compte ou t'es vraiment dans ton tunnel de footballeur, entraînement, match
Bah, je me rends compte, oui, que bah, c'est le haut niveau. C'est vrai que tout est allé très vite. Après, je regarde aussi un petit peu ce que font mes amis ou les joueurs qui ont à peu près le même âge que moi. Au même moment, bah, il y a Senderos et Fabregas qui commençaient à jouer aussi à Arsenal. Donc je me disais, voilà, bah, je suis pas le seul, quoi. Il y a aussi, si on veut être au niveau européen à cet âge-là, je suis dans le bon chemin. C'est vrai que c'est le pas était très tôt. En Suisse, ils étaient aussi surpris. Je me souviens à l'époque, il y avait des journalistes qui croyaient pas du tout, mais j'ai montré que c'était possible, justement, en tant que Suisse, d'évoluer en tant que titulaire à l'étranger dans un grand championnat. Et assez rapidement, Kevin Kuhn m'a convoqué aussi en équipe suisse, et j'ai pu jouer après au Stade de France, mon premier match avec la Suisse, et ça reste aussi un super souvenir.
Après, t'enchaînes, hein, tu voyages en Allemagne, en Italie, en Turquie, quelques mois au Lokomotiv à Moscou et ensuite aux États-Unis. Comment tu t'adaptes à chaque fois? Est-ce que tu t'habitues finalement à changer souvent? Comment c'est la vie tout court de footballeur tu sais pas, des fois tu sais pas où t'es 2 mois après?
Ouais, après tu peux savoir où t'es 2 mois après si t'es satisfait avec l'endroit où t'es, si le fait de pas toujours jouer te dérange pas. Je pense que moi j'ai toujours fait des choix par rapport à l'équipe nationale. On le voit encore aujourd'hui. Moi, Tiakin, il convoque les joueurs qui jouent. Donc être à l'étranger et pas jouer, ben ça aide pas. Donc moi j'ai toujours essayé de faire des choix et d'aller dans des endroits pour avoir des minutes de jeu pour essayer de rester en équipe nationale, parce que c'est quand même une fierté énorme d'y être. Donc voilà. Après, s'adapter à tous les pays, c'est pas facile. Sincèrement, en Russie, j'étais malheureux. Premièrement, j'étais seul, j'habitais à l'hôtel. Mes parents pouvaient pas toujours venir. Donc pour moi, c'était une période assez difficile. Mais je suis content d'avoir pu vivre ce moment-là aussi. Je pense que ça m'a aidé à grandir en tant qu'homme, en tant que joueur. Surtout, j'ai pas de regrets, ça c'est clair. Après, il y a des moments comme par exemple la Turquie au Fenerbahçe, où pour moi c'était la plus belle expérience de ma carrière, et j'ai beaucoup de respect et d'amour encore des fans, des supporters tous les jours sur les réseaux sociaux, et ils resteront pour toujours dans mon cœur, quoi. Ça, c'est des moments vraiment magnifiques, et j'espère un jour retourner là-bas. Bien sûr, ça sera plus comme joueur, mais en tout cas, peut-être comme entraîneur. Revivre ça, c'est quelque chose qui me manque. Cette ambiance, cet engagement, cette passion pour le foot que les Turcs ont, c'est quelque chose de, ouais, de presque. Enfin, on peut pas comparer ça avec un autre pays en Europe, quoi. Ils sont vraiment foot, ouais.
Il y a une culture et une passion qu'on retrouve à pas beaucoup d'endroits, mais sinon, au niveau football, où est-ce que tu as le plus appris en Italie, peut-être?
Non, très clairement, comme j'ai dit, c'est là où je suis devenu un joueur établi, en Italie. Ouais. Il y a énormément de concurrence. Souvent, il y a une concurrence à chaque position avec un Italien, et s'ils peuvent choisir, ils font jouer les Italiens. Donc il faut être meilleur que l'Italien, entre guillemets, pour résumer. Et ce qu'ils ont plus que nous, les Italiens, c'est la tactique. Et c'est là où moi j'ai énormément progressé. Et c'est là où je me suis établi en tant que joueur. Et j'ai cette mentalité-là en tant que joueur, et je pense que je vais l'avoir en tant qu'entraîneur. C'est soigner les détails de la tactique. Et je pense que la tactique est importante, pas en tant que jeune, mais à un certain moment, c'est vraiment important aussi de l'inculquer. Et je pense qu'en Suisse, on peut faire encore pas mal de progrès.
Alors ça, c'est peut-être une question qui intéresse que moi, mais j'adore voyager. Le foot m'a fait découvrir des endroits de folie. Mais toi, qu'est-ce que tu as le temps de voir quand tu es à Moscou, justement, quand tu es à Istanbul? Quelle est la part de ta vie où tu peux aller découvrir des trucs, découvrir les gens? Parce que je pense que sortir un soir à Istanbul, quand tu joues à Fenerbahçe, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. D'ailleurs, j'ai essayé d'aller visiter le Grand Bazar à Istanbul, et bah, j'ai dû faire demi-tour. Et sincèrement, je suis pas une star mondiale, mais je pouvais pas y aller. Donc voilà, c'était pour résumer. C'est quelque chose qu'il faudra que je visite plus tard, peut-être avec une casquette ou une capuche, je sais pas. En tout cas, c'était pas possible. Visiter la ville, Istanbul, j'ai pas pu le faire. Après, sortir, c'est vrai que c'est difficile aussi. Je l'ai fait quand on était premier du championnat et je partais tout le temps avec le capitaine, au moins j'étais sûr qu'il n'y avait pas de problème, c'était Alex de Souza, le Brésilien. Mais on savait très bien que le jour d'après, on serait dans les magazines avec des photos. Donc il fallait bien réfléchir et bien choisir le bon timing pour faire ça. Mais là où j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, personnellement, en dehors du foot, à part la Turquie, c'est aux États-Unis. Parce que j'aime vraiment tous les sports américains.
À Dallas, t'es passé revivre.
Ouais, justement, j'ai eu la chance justement qu'à Dallas, il y a tous les sports, tous les grands sports, ils sont. Donc, c'est que le baseball, c'est peut-être le sport que j'aimais le moins. C'était un
Je
peu lent
comprends.
à mon goût, mais après, avec les Dallas Stars au hockey ou les Cowboys la NFL ou les Mavericks, là, j'ai eu la chance de regarder les derniers matchs de Nowitzki. J'ai vu l'arrivée aussi de Doncic. Donc, c'est des moments vraiment top et j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre le sport américain.
Au niveau des langues, chaque fois, tu essayais d'apprendre un peu bah, t'en parles déjà pas mal, mais quand on se retrouve en Russie, ça pique quand même.
Bon, en Russie et en Turquie, c'était similaire. Il y avait 2 à 3 traducteurs tous les jours avec nous dans le groupe. C'était presque des joueurs, ils traduisaient. Donc, c'est très difficile le russe et le turc aussi. Donc, je pense que pour nous, ça vaut presque pas la peine d'apprendre. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, j'avais pas l'intention d'apprendre ni le russe ni le turc. Après, les autres pays, ben, j'ai eu la chance, de connaître déjà l'anglais. J'ai appris l'italien que je parle très bien. À Dallas, c'était particulier parce qu'on a beaucoup de Sud-Américains.
Ils ont un accent bizarre aussi
Ouais,
en anglais.
donc on faisait les théories de match presque plus en espagnol qu'en anglais. Et moi, en tant que capitaine, ben, je parlais aussi presque plus espagnol. Donc j'ai une base, on va dire, d'espagnol de foot. C'est que là, je pourrais pas faire un interview en espagnol, mais je me débrouille dans pas mal de langues et c'est une de mes qualités, on va dire. Et je pense que ça pourra me servir dans la vie et peut-être, et j'espère, en tant qu'entraîneur un jour.
Tu disais que tu avais beaucoup bougé aussi pour avoir du temps de jeu en vue de l'équipe de Suisse. Mais comment ça se passe à ce moment-là? Tu arrives en fin de saison, tu as un agent qui t'amène des clubs ou toi tu te dis tu as des préférences ou comment ça se passe? Parce que on voit que tu as quand même beaucoup bougé, mais chaque fois, comme tu disais, c'était calculé.
Bah, c'était calculé. Après, je sais pas si on veut faire tous les clubs. Moi, j'ai le temps, mais entre guillemets, j'ai toujours été prêté d'un plus grand club à un autre club. Et il y a toujours eu des options de minutes de jeu. Donc, si j'étais pas assez utilisé, ben, j'avais la possibilité de repartir. Après, à la Juventus, c'était assez simple. Je suis arrivé avec Luigi Del Neri. C'est Conte qui est arrivé avec un système, un 3-5-2. Donc moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais été très bon un des trois derrière,
Une
sincèrement.
Benito, une Rodriguez en équipe de
Ouais,
Suisse.
sincèrement, avec les qualités, avec ce que je suis devenu, je pense que j'aurais été bon à trois derrière. À l'époque, c'était même pas dans mon esprit de jouer cette position. Et j'étais prévu, entre guillemets, en tant que cinquième sur le côté. Moi, c'est pas ma spécialité. Il faut être un dribbleur, c'est plus un joueur offensif. Moi, je pense, plus être un bon joueur défensif qui peut apporter avec des rushs en avant, un surnom en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, la porte était très clairement fermée avec ce coach. Donc, j'avais un contrat de 4 ans à la Juve. C'était logique pour moi de partir et d'avoir des minutes de jeu. Donc, le seul regret que moi j'ai, si je peux résumer ma carrière jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que le Fenerbahçe voulait me garder et m'offrir 3-4 ans de contrat. Et la Juve a pas voulu. Et ça c'est le seul truc que moi, j'ai un regret. Et j'en veux un petit peu à la Juve, c'est qu'ils m'ont pas laissé partir. Parce que d'un côté, entre guillemets, ils ne voulaient pas. Mais de l'autre côté, ils ne voulaient pas me laisser partir. Et j'aurais pu aller au Fener, un club avec lequel j'ai joué une demi-finale d'Europa League, où j'ai gagné 2 coupes, on a fini 2 fois 2e. J'aurais été vraiment heureux et libéré de partir de la Juve et ils m'ont pas laissé partir. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Je pense que ça arrive encore tous les jours et à tous les mercatos. On peut pas toujours choisir son futur, mais en tout cas, j'ai toujours, comme tu l'as dit, j'ai essayé de faire le choix pour avoir des minutes de jeu pour l'équipe suisse et je conseillerais à n'importe quel joueur de le faire.
Du coup, tu as joué 2 Coupes du Monde, mais comme on disait avant, c'est un poste qui était très bien garni à l'époque, latéral gauche. Est-ce que tu as des petits regrets de ce côté-là? Est-ce que tu penses que si tu avais été peut-être déjà un peu décalé dans l'axe ou un peu plus offensif, tu aurais pu jouer un peu plus ou pas de regrets à ce
Ben,
niveau-là?
non, je pense sans être arrogant, en étant très honnête, j'aurais mérité une convocation en tant que central. Je pense qu'en 2015-2016, avec Sion, on gagne la Coupe, on joue en Europa League. En tant que central gauche, j'aurais pu apporter vraiment quelque chose de différent et une aide à l'équipe suisse. J'étais de piqué, mais Petkovic m'a jamais convoqué. Maintenant, voilà, c'est des choix d'entraîneur, il n'y a pas de souci. En tant que latéral gauche, moi j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait le maximum. Il y avait toujours des bons joueurs et une concurrence saine à ce poste-là, et ça reste des choix d'entraîneur. Après, j'aurais pu jouer 60 matchs ou 70 à 3-4 minutes comme certains. Moi, j'en ai fait 35, mais la majorité titulaire, et j'en suis très fier.
Est-ce que c'est ce moment-là où tu te dis, bah, pas tant pis, mais je vais aller aux États-Unis. C'est la MLS recommençait à devenir populaire, pas autant que c'est aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais aller de l'autre côté de l'Atlantique pour vivre ce sport nord-américain qui est vraiment un autre monde, quoi.
Ouais, je pense que quand on a la chance d'aller en MLS, à un certain âge, faut pas hésiter. Après, je conseillerais pas à un jeune de 20 ans d'y aller, mais je pense que moi je suis allé, je vais pas dire de bêtises au niveau de l'âge, mais j'avais 30, 32, 33 peut-être. Et je pense que c'est un âge, on va dire, idéal pour y aller. Moi, j'avais envie, de vivre, cette expérience américaine. Le contrat, il était sur la table, il était clair. Ils sont venus me voir jouer en Suisse. À l'époque, j'étais à Lucerne en prêt.
T'étais joueur
Enfin, pas
laisse.
en prêt, j'ai signé 3 mois à Lucerne pour justement attendre janvier et la période de transfert des États-Unis. Donc, ils sont venus me voir jouer. C'était difficile de refuser, sincèrement.
T'étais joueur désigné là-bas?
Non,
Non?
non.
Donc
Mais,
on pouvait voir ton salaire dans
ouais.
les
Bon, pour aller regarder si
salaires
vous voulez le salaire. Mais en tout cas, je suis arrivé dans un club qui avait aussi une culture de la gagne. Ça a changé maintenant. Le Dallas, c'est plus devenu un club formateur. D'ailleurs, ils ont vendu pas mal de joueurs aussi en Europe. J'aurais préféré aller dans un club qui vise vraiment le titre, qui veut la première place, qui veut gagner le titre. Tout le monde dit ça naturellement quand on parle avec les clubs américains, mais la vérité, c'était plus un club formateur, malheureusement. Mais ça reste vraiment une super expérience, et j'ai encore beaucoup de contacts, pas seulement avec le monde du foot, mais aussi avec des amis, avec des gens que j'apprécie beaucoup, et j'espère retourner à Dallas pendant la Coupe du Monde pour voir la Suisse. Et je sais qu'il joue à, enfin, je sais pas si la Suisse jouera à Dallas, mais en tout cas, Dallas est une ville désignée pendant la Coupe du Monde. Donc,
Il faut que Japon
ça,
se qualifie.
ouais, c'est mon objectif d'aller là-bas, et puis aussi montrer à ma fille où elle est née, où elle a grandi, quoi,
Elle a
parce
le
que
passeport, du coup.
elle a le passeport, ouais. La grande fille, elle est américaine, ouais.
Tu dois faire une Raphaël Vicky, aller entraîner là-bas aussi.
Moi, je ne vais pas fermer les portes, ça, je ne sais pas. Je vais déjà me concentrer à faire les diplômes, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais pourquoi pas, ouais, pourquoi pas.
Quand tu as vu Messi débarquer à Miami, tu t'es dit, ouais, la ligue, elle décollait gentiment, le prix des franchises est devenu une folie. Là, tu te dis, c'est encore un autre monde, là, ils sont.
Ouais, bon, après, moi, j'ai pu jouer 4-5 fois contre Ibrahimovic, contre Wayne Rooney, contre Schweinsteiger. Donc, il y avait déjà des beaux noms, c'est vrai. J'ai joué contre mon pote Senderos aussi à les derbies texans contre Houston. Donc non, il y avait déjà pas mal de bons noms. Maintenant, c'est clair, avec Messi, ça prend encore une autre dimension, surtout au niveau journalistique. Les gens parlent plus de la MLS, et leur objectif, sincèrement, c'est de devenir un championnat compétitif avec l'Europe. Ça prendra énormément de temps. Je sais pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, c'est leur objectif.
La culture latino a beaucoup aidé,
C'est
vraiment.
clair. Bah, les Américains sont habitués à être les meilleurs dans presque tous les sports. Donc, le foot, ça va être difficile. Mais en tout cas, ils mettent les moyens, en tout cas, au niveau des stades, au niveau des supporters. C'est une belle expérience d'aller voir un match là-bas. Maintenant, la qualité des joueurs, bah, ça s'achète, mais c'est surtout la formation que je pense qui pêche un peu aux États-Unis, et c'est ça qu'il faut qu'ils changent. Ouais.
Et ça commence à venir. C'était quoi Inter contre Milan l'autre jour, il y a quatre Américains sur le terrain.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est
Bah, il y
énorme.
a Mackenzie de la Juve
Ouais.
qui a grandi À côté de Frisco, là où j'ai habité à Dallas, lui vient de Dallas, ils ont vendu un joueur aussi au Bayern Munich. Il y a deux, trois joueurs aussi qui sont arrivés au Portugal. L'équipe nationale américaine s'est qualifiée pour le dernier mondial. On voit quand même qu'il y a énormément de progrès. Mais bon, la Ligue, elle est pas sous-estimée. Sincèrement, elle n'est pas sous-estimée. Je pense qu'on compare avec la Suisse, ça se joue. C'est pas facile à être titulaire, à jouer, surtout au niveau de l'intensité et au niveau du physique, c'est pas facile. Après, comme j'ai dit, je pense que tactiquement, depuis tout jeune, les Américains, ils ont peut-être pas la formation que nous, on a ici en Europe, mais ça peut changer.
C'est une autre culture des grillades derrière la voiture, mais ça, c'est une autre chose.
Ouais.
Bon, on arrive gentiment au bout. La question bateau, c'est quoi ton meilleur souvenir de footballeur jusqu'ici? Si tu dois en sortir un.
C'est dur d'en sortir un parce que je négligerais tous les autres, mais j'en ai parlé aujourd'hui avec nos physios qui sont espagnols, et je pense que ça doit être d'avoir gagné ce match contre l'Espagne en 2010, même si on a touché très peu de ballons, mais on a quand même battu les champions du monde. Et comme je t'ai dit, je viens de parler ça ce matin, et c'est vrai que ça reste un bon souvenir. Dans le moment, on se rend pas trop compte de ce qu'on a fait. Et puis après, avec les années, on se dit, ah, mais quand même, c'était pas mal. Parce que je pense qu'à l'époque, on avait peut-être moins de qualité offensive que l'équipe nationale actuelle, mais on avait quand même un bon groupe. Et avec beaucoup de volonté, on a prouvé qu'on pouvait battre les champions du monde.
Tu as aussi joué une finale de Coupe de la Ligue contre Rooney, Ronaldo et compagnie. C'était pas Wembley, c'est un regret, ça.
Moi, je suis rentré, puis il y avait déjà 4-0. Donc non, c'était pas un regret. J'aurais espéré commencer, mais ouais, c'est une opportunité loupée pour gagner un titre. J'ai perdu aussi une finale de coupe en Italie qui me fait mal. J'ai perdu deux coupes suisses.
Bah, t'en as gagné deux.
J'en ai gagné deux, donc voilà, j'aimerais en jouer en tout cas une dernière et la gagner avec Sion. C'est ça mon plus objectif, enfin un de mes plus grands objectifs. Ouais.
À quel moment de ta carrière tu t'es senti le plus fort?
Franchement, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire se sentir fort. C'est-à-dire, je pense que au niveau de l'expérience et le calme que j'ai maintenant, ben, je l'avais pas à 20 ans. Après, à 20 ans, peut-être je courais 1 km de plus que ce que je fais maintenant. Donc, je sais pas. C'est difficile à répondre. Mais, ben, ça va être une réponse bateau. Mais je pense entre 25 et 30 ans, c'est les meilleures années en tant que joueur de foot.
Où tu as le
Et,
mix
ouais, je
physique-tactique.
pense, ouais. Quand on se rapproche des 30 ans, c'est là on est au top. Mais j'ai aussi du plaisir maintenant sur le terrain, je me sens fort aussi. Donc, je pense qu'il faut se sentir fort, sinon tu peux pas rentrer sur un terrain de foot. Que tu aies 18 ans ou 38, tu es obligé d'avoir confiance en toi. Donc, c'est dur de dire une année ou un club, mais c'est vrai qu'entre 25 et 30 ans, c'est là où tu es au top de ta forme.
T'en parlais avant, je voulais te demander ton plus grand regret, mais c'est vraiment de ne pas être retourné au Fener à l'époque.
Ouais, mais regret, mais c'était pas non plus dans mes mains, c'était pas vraiment mon choix. Ouais, c'est le regret de ma carrière, c'est que malheureusement à la Juve, ça a pas fonctionné, mais ça, c'est pas grave, la vie elle continue, on peut pas toujours tout avoir, pas toujours tout peut se passer comme on veut, mais le fait qu'il m'ait pas laissé signer au Fener, ça, je pense, ça me fait mal, ouais, parce que je sais qu'à Istanbul, ils m'auraient accueilli les bras ouverts. D'ailleurs, ils m'ont pris deux fois en prêt parce qu'ils m'aimaient beaucoup. Et il y a un coach, un président qui m'appréciait énormément. Et ça m'a fait mal. J'aurais vraiment voulu m'établir là-bas.
Autre regret, mais bah, c'est cette relégation avec Sion l'été passé. Mais là, tu es encore à Sion, donc tu peux encore redresser la barre, une promotion, une coupe, et ta carrière sera bouclée magnifiquement.
J'espère, et non seulement boucler, mais j'espère encore jouer en Super League avec Sion. Ouais. C'est ça mon objectif, ouais.